Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Bonsoir. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, on a parlé à propos du côté personnel, comment on a affaire avec les Africains quand on les prêche. Je ne vais pas parler encore une fois pour le caractère des Africains, mais sauf pour un tout petit mot, c'est que vu la vie qu'a vécu les Africains sous la colonisation, ils étaient très déprimés. Ils sentaient que parce qu'ils sont Africains, ils sont la camelote de l'humanité. Alors, ils s'attaquent, ils collent très grandement sur n'importe quelle chose qui montre que n'importe quoi en Afrique a de la valeur. Alors, on peut profiter de ce point pour leur expliquer d'une façon très simple mais précise que la plus forte église du monde qui a duré jusqu'au moment, c'est-à-dire depuis le premier siècle Jésus-Christ, ou très précisément depuis l'année 61 Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ, jusqu'à un moment, c'est une église à 100% africaine. C'est ce qu'on va, ça sera notre sujet aujourd'hui. Comment on leur montre d'une façon simple et précise l'Église copte orthodoxe d'Alexandrie. Bon, les premières caractéristiques, l'Église copte orthodoxe, les caractéristiques, d'abord fondée par Saint Marc entre 61 et 68, on dirait, dans les manuscrits, pas moi, c'est-à-dire, que Saint Marc est arrivé à Alexandrie vers l'année 61, après qu'il a quitté Saint Paul et Saint Barnabé, après le troisième tour de Saint Paul dans sa prédication, c'est-à-dire à l'Asie mineure et l'Europe. Précisément Italie. La deuxième chose, c'est que laissons ça maintenant. Église apostolique, due à Saint Marc qui était un des disciples du Christ. Bon, pourquoi apostolique, pourtant que Saint Marc était un disciple, pas un apôtre? C'est tout simplement parce que Saint Marc a été élevé entre les apôtres, Saint Pierre et le cousin de son père, et Saint Barnabé et son oncle maternel, Chélo. Alors, en plus, il a suivi la vie de prédication de Jésus dès le début jusqu'à la fin. C'est pour cela qu'on dit que Saint Marc est considéré apostolique, pas disciple. Troisième point, c'est parce que c'est une véritable église africaine, et on va voir pourquoi quand on va parler après les détails de l'église copte orthodoxe, on va savoir pourquoi c'est une véritable église africaine. Ce que je veux dire après, c'est d'abord, avant de parler de Saint-Marc, pourquoi l'église d'Alexandrie et pourquoi on a choisi et on a gardé le nom d'église d'Alexandrie, pourtant le pape maintenant réside au Caire. Premièrement, à cette époque-là, dû à la valeur d'Alexandrie avant et après Jésus-Christ, du point de vue connaissance, science, Alexandrie avait une école, même avant Jésus-Christ, avait une école que tous les presque tous les savants du monde connu à cette époque venaient pour apprendre leurs études, telles que l'astronomie, la chimie, les maths. On disait que Archimède est venu faire ses études à l'église d'Alexandrie. Ce n'est pas l'église théologique. Nous sommes toujours avant Jésus-Christ. Et aussi, à Alexandrie, il y avait la plus grande école philosophique du monde. Là où on étudiait les grands philosophes de la Grèce, d'Égypte et de plusieurs autres pays, tels que par exemple Aristote, Socrate, ainsi de suite. Et deuxième chose, due à la valeur économique. Alexandrie était le centre commercial principal de la Méditerranée. C'était connu tout le commerce du monde. La Méditerranée à cette époque était disons la mer principale, parce qu'on n'a pas encore découvert l'Amérique. Alors la Méditerranée reliait les trois anciens continents du monde, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Alors Alexandrie était la plus grande ville, était le centre commercial. Et je ne vous raconte pas une histoire géographique ou historique, j'utilise tout cela pour vous montrer pourquoi Saint Marc a choisi Alexandrie et pourquoi on a gardé le nom de notre église comme l'église d'Alexandrie jusqu'à maintenant. Et aussi la valeur géographique, parce que comme c'est le centre économique, encore la position, la place, la géographie d'Alexandrie, elle était le carrefour pour tous les coins du monde connus. Troisièmement, Alexandrie était pleine de variétés de nationalités. Il y avait de toute nationalité. Alexandrie, à cette époque, était une très grande pays et ville. Alors, plein de nationalités, plein de religions, il y avait les religions athées, les religions paganes, les religions juives, les différentes religions égyptiennes, romaines, grecques, ainsi de suite. Il y avait plein d'ethnies, de tout genre, de tout pays, de tout tribu, ainsi de suite. Ce qui était très, très, très utile pour répandre la prédication chrétienne parmi toutes les catégories des gens, parce que beaucoup de gens venaient à Alexandrie et après ils retournent, ils apprennent d'Alexandrie toutes les sciences, toutes les connaissances, toute la philosophie, toute la mode, et ils les transmettent dans leur pays et dans leur domaine. Quatrièmement, c'est parce que tout le monde à cette époque suivait ce qu'adoptait Alexandrie. Alexandrie adoptait par exemple l'adoration du singe. Par exemple, on adorait le singe à Alexandrie. Alors, tous ceux qui venaient visiter Alexandrie, ils revenaient avec l'adoration du singe et ils appliquaient l'adoration du singe dans leur pays. Parce que par exemple, on disait que Alexandrie à cette époque était le phare de la mode des réalités contemporaines à cette époque, à son époque. Et cinquième point et la point final était la porte. Alexandrie était la porte dorée pour passer à toute l'Égypte. C'est-à-dire, à partir d'Alexandrie, on répandait, on publiait, on transmettait n'importe quoi à toute l'Égypte. Bien. Alors, on revenait au poème. Tout cela, c'était la capitale culturelle du monde de l'époque. On a détaillé les cinq points pour ce point. Deuxième point, centre commercial aussi pour la Méditerranée. Abrite une grande diversité et race d'ethnies, multiplicité de religions, pharaoniques, romaines, juives, paganes, athées, ainsi de suite. Tout cela, on venait d'y raconter. Et à partir d'Alexandrie, comme on a dit, le christianisme s'est répandu sur tout le territoire égyptien, puis l'Éthiopie, puis ensuite sur presque tout le territoire africain où il y avait de civilisations ou d'agglomérations humaines connues. Parce que l'Afrique à cette époque n'était pas étendue jusqu'à l'Afrique du Sud. Il n'y avait pas de gens sauf au bord du Nil et quelques tribus nomades à l'ouest. Deuxième point principal, c'était le phare de foi orthodoxe. Comme on a dit, c'est Alexandrie et l'église d'Alexandrie qui résista contre les hérésies, qui défenda les hérésies. Nous connaissons Saint Athanasios ou Athanas, comme on dit en français, Saint Dioscoros, Saint Cyril Ier, Kyrillos el Awel, ou Amoud el Din, Saint Didymos, Saint Origanos, Pierre le dernier des martyrs, et des centaines d'autres saints, de grands saints et de grands défendeurs de la foi orthodoxe. Et comme vous savez que quelques rechercheurs, même dans notre époque, ils ont dit que sans Saint Athanasios et sans l'Église copte, on aurait perdu la foi réelle chrétienne. Le point suivant, c'est Église des martyrs. Selon les manuscrits et selon les chroniqueurs, on disait que l'église d'Alexandrie, c'est la plus grande église au monde qui présenta des martyrs pour la foi chrétienne. Seul à l'époque de Dioclétianus, on a eu entre 80 000 et 100 000 martyrs dans l'époque d'un seul empereur romain. Imaginons les autres, Trajan, Caligula, Néron, ainsi de suite. Comment ? Le nombre pour Dioclétien seulement, entre 80 et 100 000 martyrs. Déjà, vous connaissez l'histoire. Qu'un jour, il était sur son cheval, il disait « Je ne vais pas arrêter de tuer les chrétiens jusqu'à ce qu'on souille le ventre de, jusqu'à ce que leur sang souille le ventre de mon cheval. » Heureusement, Dieu a fait trébucher le cheval, alors il est tombé, alors le sang a souillé le ventre du cheval, alors il s'est arrêté. Heureusement que le cheval trébucha. Bon, le point suivant, c'est la base de la théologie chrétienne. La base de la théologie chrétienne. À Alexandrie, c'est Saint Marc lui-même qui a fondé l'école théologique d'Alexandrie. Draset Skenderia Lahoutei. Et on connaissait bien sûr Saint Clément, Didymos, Saint Origan et des centaines d'autres qui ont tracé et clarifié la foi chrétienne et qui ont détaillé la parole de Dieu à travers les siècles. L'école théologique d'Alexandrie aussi, on connaissait que d'états de d'autres papes qui ne sont pas pour Alexandrie, par exemple Saint Jean le Chrysostome, Johann Zahabi el-Fem, a appris dans l'école théologique d'Alexandrie, et Saint Grégoire, ainsi de suite, Grégorios, ainsi de suite. Alors, aussi, l'école théologique d'Alexandrie était une référence pendant des siècles pour tous les problèmes de foi. C'est-à-dire, quand on avait un problème de foi n'importe où dans l'église de Dieu, avant le 4e siècle, on ne disait pas l'église orthodoxe, l'église catholique, l'église bien protestante, c'était beaucoup plus loin, mais on disait l'église de Allah. L'église de Dieu. durant le concile de Nicée, Magma Nicée, on a précisé, c'est dû aux évêques et au pape d'Alexandrie qu'ils ont précisé la date pour la célébration de la fête de la résurrection et du Christ. Et c'est à partir de l'école théologique d'Alexandrie que tout le monde connu pendant 5 à 6 siècles demandait quand on doit célébrer la fête de la résurrection. Et le pape calculait, parce que les papes d'Alexandrie, comme ils sont bien éduqués à partir de l'église d'Alexandrie, où ils sont bien éduqués dans l'astronomie, les mathématiques, ainsi de suite, alors ils précisaient chaque année la date précise pour la fête de résurrection, la Pentecôte, c'est-à-dire, puis ils envoient des messagers dans tous les pays du monde, dans toutes les églises du monde, pour leur dire, bon, voilà, le jour, la fête, vous allez célébrer la fête de la Pentecôte, de la résurrection, à tel jour. Pardon, excusez-moi, c'était la fête de Pâques, pardon. Bien. Même quand il y a un problème théologique quelconque, n'importe quel verset d'évangile ou une partie d'évangile qui est un peu compliquée, on envoyait au professeur de l'école théologique d'Alexandrie justement pour savoir les détails, l'explication correcte de cette partie, de ce verset, ainsi de suite. L'église d'Alexandrie était la base du monachisme. Attention, monachisme, pas monarchisme. Monachisme, Rahban. On connaît toutes les églises du monde, orthodoxes et catholiques de tout genre, plus quelques églises protestantes qui acceptent un peu le principe de monachisme, avouent et croient que Saint Antoine était le fondateur du monachisme au monde. Saint Antoine est véritablement connu comme père de monachisme dans toutes les églises, dans tous les coins du monde. On trouvait des églises Saint Antoine, Saint Anthony, avec toutes les langues du monde, partout quand on se balade dans le monde, de l'est à l'ouest, du nord jusqu'au sud. C'est dû à Saint Pachum, père des communes de moines. Ebb-Sherik. Père des communes de moines. La vie monacale. L'hayat rahbaneya ou l'hayat sherika rahbaneya. Base de spiritualité. La plus grande église où il y a vraiment la foi chrétienne s'exprime avec une spiritualité très élevée, c'est l'église d'Alexandrie ou l'église copte orthodoxe. Moi, personnellement, j'ai rencontré des tas d'étrangers qui venaient de plusieurs coins du monde, et que quand on discutait religion, ils sont des chrétiens. Ils me disaient, comment vous comprenez ces versets d'évangile de cette façon? C'est une façon qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas comme on l'a apprise dans nos églises, comme application, comme explication, sans sentiment. Alors, c'est une réalité que notre Église est très spirituelle. On transforme ou on analyse ou on médite dans nos versets, dans les versets de l'Évangile, d'une façon spirituelle. C'est pour cela que notre Église a résisté contre des tas de menaces à travers sa vie qui dure 21 siècles. Bien, tous les chrétiens du monde, durant des siècles, et en plus, dans les églises, les chroniques de notre église, dans plusieurs livres, tels que, par exemple, Bustan Rohban, Taban, le Sénexar, ainsi de suite, ont trouvé des tas de gens, de moines, de prêtres, d'évêques, d'autres pays qui venaient pour s'inspirer de nos pères de notre Église, tels qu'ils soient des patriarches, des papes ou des évêques, des prêtres, des moines ou d'autres. Vu leur large connaissance et compréhension des mots de l'Évangile et leur façon de l'expliquer et l'appliquer simplement et facilement, bien sûr, inspiré par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que il y a une grande différence quand on lit l'Évangile comme on lit n'importe quel livre ou quelle revue, et quand on lit l'Évangile et on médite dans ces mots, inspiré par l'Esprit Saint. Dernier point dans les détails, bien sûr, si on parle en détail pour l'Église copte orthodoxe d'Alexandrie, on n'en finirait jamais. Parce que c'est une histoire de 2000 et quelques poussières d'années. Alors, on ne peut pas terminer de temps. Mais ce sont les points principaux. Dernier point, avant de parler de Saint-Marc lui-même, c'est une église biblique. Pourquoi église biblique? Parce que tous les détails de notre église, soit les détails tangibles, ou les détails spirituels, ou nos prières, n'importe quel genre de prière que nous appliquons dans notre église est inspiré de l'Évangile. Que ça soit une partie précise de l'Évangile telle que les psaumes, les parties d'Évangile, ou même les prières, les différentes prières de la messe. Alors, notre église applique les paroles de la Bible dans toutes ses rites, pratiques et services. Notre Église, bien sûr, croit à la nature de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu sans séparation. Et c'est le plus grand problème qui a eu lieu et qui a divisé l'Église durant le Concile de Chalcédoine. Et qui a créé depuis cette époque-là, au 5e siècle, l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Il croit aussi à l'incarnation, et Tegesud. Pourquoi l'incarnation? Comment a eu lieu l'incarnation et l'importance de l'incarnation? Ça, c'est comme je vous ai dit, si on parle en détail à propos de sur chaque point, on n'en termine jamais. La foi de rédemption, elle y mène Belfeder. Belfeder, c'est le Messie. C'est même. Croit à la crucifixion, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Parce que déjà, le concile de Nicée et le concile d'Éphèse ont douté que le Christ est véritable, c'est Jésus-Christ qui s'est crucifié vraiment, mort et ressuscité, et ce qui s'est crucifié, mort et ressuscité, était le véritable Dieu unique. Mais j'ai oublié d'écrire ça, alors vous n'allez pas l'avoir pas trouvé ici. C'est l'Église copte qui donne la valeur réelle et correcte pour la Vierge Marie, ni plus ni moins, ni plus comme l'Église catholique telle que moi je ne critique pas personne, mais je vous dis la comparaison, c'est-à-dire moi je n'ai pas l'habitude de critiquer n'importe quelle autre personne. Mais ni plus comme l'Église catholique qui dit qu'elle était que la Vierge est Immaculée Conception, c'est-à-dire Hopilebihabiledenes, ni que c'était un réservoir qui nous a donné le Christ, puis au revoir la Vierge comme les protestants. Je ne critique pas, mais je dis ce que croient les autres églises.